Et on va ouvrir, ouvrir cet après-midi le chapitre 21 de l'Apocalypse pour aller un tout petit peu plus loin dans la découverte de ce que l'Écriture enseigne concernant la Nouvelle Jérusalem. Je reviens sur la lecture du verset premier. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. J'ai eu l'occasion de parler là-dessus lors de ma dernière mission chez Gagou, la mer n'était plus. Mais je n'y reviendrai pas cet après-midi, j'aimerais aller plus loin. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'aimerais qu'avant de méditer la parole de Dieu, nous puissions nous recueillir et nous allons encore prier le Seigneur. Bon et tendre Père Céleste, tu as permis que nous soyons rassemblés dans cette salle cet après-midi. Nous te prions de nous aider à accorder à ces moments tout le respect, toute l'attention nécessaire, afin que ce que tu veux dire et ce que tu veux faire s'accomplissent pleinement dans nos vies. Ta parole affirme que tu as des desseins bienveillants pour nous, qu'ils soient accomplis, accomplis dans ta miséricorde, l'œuvre de notre foi. Nous prions pour que tu mettes maintenant sur ta parole l'onction de ton esprit. Nous méditons sur des choses qui sont devant nous, mais qui sont déjà en nous, et nous prions pour qu'elles soient formées encore et menées à la perfection. Seigneur, mets ton onction sur tout cet auditoire. Tu connais les besoins de chacun, les interrogations, les combats, les souffrances. Nous prions, Seigneur, pour que dans ta largesse, dans ton infinie bonté, tu œuvres dans nos vies, que nous sortions de là cet après-midi, renouvelés encore, un peu plus fortifiés et encouragés à marcher dans tes voies. Détruis les œuvres de notre ennemi, à quelque niveau que ce soit. Détruis au nom de Jésus toute opposition à la prédication de ta parole et glorifie-toi. Amen. Le verset 2 nous dit « Je vis ». Déjà ce matin, nous avions remarqué « Puis je vis ». Et là, à nouveau, la notion de percevoir les choses comme Dieu le désire, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Nous savons bien, par la parole de Dieu et par l'histoire des hommes, que l'ancienne terre, je parle de la nôtre maintenant, aura eu ses grandes villes, ses métropoles. Babylone est une ville prédominante sous le règne de l'Antéchrist qui vient. La parole de Dieu consacre plusieurs chapitres là-dessus dans le livre de l'Apocalypse. Mais au-delà de Babylone, l'Écriture nous parle aussi de Jérusalem restaurée, la Jérusalem terrestre. Et ça, c'est à venir. le Seigneur va restaurer Jérusalem, et c'est de là que Christ, qui reviendra en gloire après l'enlèvement de l'Église, dirigera le monde pendant le millénium. De très nombreux chapitres dans l'Ancien Testament parlent de cette restauration de la Jérusalem terrestre. Mais dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, il est question d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Il est donc normal que la nouvelle terre ait aussi sa ville représentative. Et l'Écriture nous en parle, et c'est ce qui nous préoccupe dans ce séminaire, cette ville représentative de la nouvelle création. C'est la nouvelle Jérusalem. Cet après-midi, il y aura une étude un petit peu technique. Nous sommes à l'heure de la digestion. C'est quelque chose de difficile et d'agréable à la fois. Il m'est arrivé d'écouter un pasteur quand j'étais en pleine digestion. Vous l'entendez de plus en plus loin. Vous ne sentez plus votre corps. C'est bon. Surtout quand ce qu'il dit, c'est pas intéressant. Alors j'espère que cet après-midi, nous allons vaincre ça. Je vais vous montrer avec l'aide de la parole de Dieu, et c'est très important pour la suite des réunions, le contraste qu'il y a entre la nouvelle Jérusalem de Dieu et la Babylone de Satan. Les deux se préparent. Le diable est en train, et ça va très vite, c'est en route. Le diable est en train de préparer sa Babylone. Et le Saint-Esprit est en train de préparer la nouvelle Jérusalem. Ce sont deux forces qui appartiennent au monde spirituel, l'un mauvais, l'autre de Dieu, qui s'affrontent. Babylone, que l'Écriture appelle aussi la grande prostituée, a été révélée à l'apôtre Jean par l'un des sept anges porteurs des coupes des derniers fléaux. Au chapitre 17 de l'Apocalypse, je lis, « Puis un des sept anges qui donnait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, écoutez bien, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Et les grandes eaux, nous apprenons cela ailleurs dans l'Écriture, ce sont les peuples, les tribus, les nations, les langues. Cette prostituée, il y a là un langage symbolique, va s'asseoir sur le monde entier. Et c'est l'un des sept anges qui donnait les sept coupes des derniers fléaux de Dieu qui montre cela à Jean. Et ce qui est frappant, c'est que c'est aussi l'un de ces sept anges qui va montrer à l'apôtre la Jérusalem céleste, l'épouse de Christ, et qui est à l'opposé de la grande Babylone. Cette fois, je lis au chapitre 21, verset 9, « Puis un des sept anges qui donnait les sept coupes remplis des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, écoutez bien, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » L'agneau, c'est Christ. L'épouse, la femme, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est nous. Vous remarquez donc qu'il y a un lien dans ce contraste. De chaque côté, c'est un ange, un des sept, qui donnait les coups du jugement de Dieu. Et le début du message, l'invitation est la même. Viens, je te montrerai. Viens, je te montrerai. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. Il faut que nous soyons instruits sur le monde spirituel qui est bon, sur le monde spirituel de Dieu. Nous avons besoin de grandir dans le ministère du Saint-Esprit. Nous avons besoin de grandir dans celui que Jésus a envoyé à sa place. Je vous enverrai un autre consolateur. Et nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est maintenant le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans le monde, dans l'Église et au travers de l'Église. Et nous avons besoin d'entretenir avec le Saint-Esprit une étroite communion. Je le répète, l'apôtre Paul a appelé ça la communication du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être enseigné par lui, instruit par lui, conduit par lui. J'ai besoin d'entrer dans la révélation des choses spirituelles de Dieu sous la conduite du Saint-Esprit. Mais nous avons aussi besoin d'être instruits sur le monde spirituel mauvais. C'est une grave erreur dans un temps de guerre de ne pas connaître son ennemi, de ne pas connaître ses stratégies, de ne pas connaître ses armes, de ne pas connaître sa façon d'agir, ses buts. N'importe quelle armée qui entre en conflit avec une autre se renseigne sur l'ennemi. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer notre adversaire. Il n'est pas question de lui donner une importance que la Bible ne demande pas. Il n'est pas du tout demandé aux chrétiens de presque honorer les œuvres de l'ennemi, pas du tout. Mais il faut que nous soyons savants sur les choses qui concernent notre ennemi, le diable. L'apôtre Paul a quand même écrit dans l'une de ses épîtres, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Si nous ne connaissons pas sa personne, et la Bible le révèle, si nous ne connaissons pas ses intentions, ses buts, sa façon d'agir, mais nous allons devenir une proie facile pour lui. La Bible parle des ruses de l'ennemi. Et pour triompher de ces ruses, elle me dit, fortifiez-vous par la force toute puissante de Dieu et prenez toutes les armes de Dieu. Il me semble que trop souvent nous avons une vie terre à terre, bien trop terre à terre, bien trop matérialiste. Je ne dis pas qu'il faille être des mystiques. Nous avons les pieds bien sur la terre, le cœur au ciel, mais il faut être extrêmement pratique. J'ai besoin de mieux connaître Jésus, de vivre dans une relation puissante avec le Saint-Esprit. Mais j'ai besoin d'être renseigné, et l'Écriture est là pour cela, concernant mon ennemi. Je te montrerai l'épouse, mais je te montrerai aussi la grande prostituée. Nous avons besoin d'être au clair sur ce qui est en train de se préparer dans le monde. Il faut que nous soyons au clair, que nous ouvrions nos yeux et que nous soyons en état d'alerte. Nous parlons de la grande Babylone. Elle va être un système religieux, politique, économique, à l'échelle planétaire. Et je vous demande de bien entendre ce que je vais dire et de ne jamais l'oublier. La parole de Dieu me présente la grande Babylone sous un double signe. Elle est une ville et elle est une personne. Pour ce qui est de la ville, c'est une ville souillée. Je lis au chapitre 18 de l'Apocalypse, verset 9. Tous les rois de la terre, notez ça, va y avoir une unanimité au niveau des gouvernements mondiaux. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Donc c'est une ville corrompue. Pour ce qui est du signe de la personne, eh bien c'est une personne corrompue, souillée, une prostituée. C'est là aussi un langage symbolique. Je lis au chapitre 17 de l'Apocalypse, verset 2, j'ai lu tout à l'heure le verset 1er. Il est question donc de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. On retrouve l'image d'un système mondial. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 corps. Si vous allez à quelques centaines de mètres du Parlement européen de Bruxelles, il y a une statue. C'est une bête, et dessus il y a la femme assise. Si vous avez un jour dans les mains la pièce de 2 euros grecs, regardez bien cette pièce, une sœur m'en a fait un jour cadeau. L'effigie qu'il y a sur la pièce de 2 euros grecs, c'est la femme assise sur la bête. Nous sommes en route, et ça va très vite. Ça va très vite. Babylone est donc présentée sous le signe d'une ville souillée, et d'une personne corrompue, une prostituée. Par contraste, la Nouvelle Jérusalem apparaît comme une ville. Et elle apparaît comme une personne. Comme une ville sainte. C'est tout l'opposé de Babylone qui est une ville corrompue. Et comme personne, elle est présentée, je l'ai lu, comme l'épouse, la femme de l'agneau. Pour ce qui est de la ville sainte, et là on va creuser un petit peu ensemble le chapitre 21, rassurez-vous, on y arrive. Verset 2. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Verset 10. Il me montra la ville sainte, Jérusalem. Verset 14. La muraille de la ville, avait 12 fondements. Verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville. Verset 16. La ville avait la forme d'un carré. Verset 18. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. Verset 19. Les fondements de la muraille de la ville. Verset 21. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur. Verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville. Verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune. Chapitre 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville. Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Face à Babylone, la ville souillée, corrompue, qui va être jugée, Dieu me montre la nouvelle Jérusalem. La ville de Dieu, la ville sainte. une ville représentait plusieurs choses et ce message-là nous encourage cet après-midi. Une ville représentait d'abord une résidence, une habitation. Et là, je vais faire une petite parenthèse qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais déjà vous dire ceci, et je vais sûrement le répéter à toutes les réunions parce qu'il faut que nous comprenions ça. La difficulté d'interprétation du chapitre 21 de l'Apocalypse, c'est que nous avons affaire à la fois à une ville et à une personne. Et c'est la même chose. C'est la ville et la personne, ce ne sont pas deux choses différentes. Et comme le deuxième signe, cette personne, c'est la femme de l'agneau, c'est nous. Et il faut comprendre que ce que Jean a vu, ce ne sera pas exactement la nouvelle Jérusalem spirituelle, parce qu'il y a là un langage symbolique. Et je ne pense pas que nous habitions dans cette nouvelle Jérusalem, dans le sens où cette nouvelle Jérusalem, c'est nous. Est-ce que vous comprenez ça? Alors oui, nous habiterons quelque part pour la gloire de Dieu, mais cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, qui est montrée symboliquement comme une ville, c'est nous. C'est nous la nouvelle Jérusalem. C'est pas un lieu où on va habiter, c'est nous. Nous sommes à la fois la Jérusalem à venir et l'épouse de la femme de l'agneau. Pour l'instant, on est sa fiancée. Alors, ce que je voulais vous dire, puisqu'une ville représente une habitation, une résidence, c'est que l'endroit où nous habitons, c'est Christ. Quand le Seigneur nous a saisis pour nous sauver, quand il y a eu en nous le miracle de la nouvelle naissance, qui a été le prolongement de notre conviction de péché et de notre repentance, la Bible dit clairement, si quelqu'un est en Christ, dans le Christ, il est une nouvelle création. La Bible ne dit pas si quelqu'un est dans le baptistère, il est une nouvelle création. Mais si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais dans ton péché, de la tête aux pieds. Tout était pourri en toi. Et rassure-toi, c'est pareil chez moi. Et puis il est venu. Il t'a convaincu, il t'a montré la croix, il t'a montré le Fils. Il y a une action du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Ton cœur a été brisé authentiquement. Convaincu de péché, tu as reconnu ta souillure, tu t'es vu misérable. Et le Saint-Esprit t'a conduit vers l'agneau qui a pris ta place. Tu t'es donné au Seigneur. À partir de ce moment-là, il y a eu un miracle extraordinaire que personne ne peut expliquer. Il y a eu une nouvelle création. Tu n'as pas été amélioré. Tu n'as pas fait des progrès par rapport à hier. Tu as été recréé de fond en comble. La conversion n'est pas une amélioration. La conversion n'est pas une adhésion au club évangélique. La conversion n'est pas une adhésion à une église. C'est une nouvelle création. Il t'a pris, il t'a tiré de la fange du péché, de la fosse de destruction, et il t'a baptisé dans le Christ. Et là, je ne parle pas du baptême d'eau. Je parle d'un baptême dans la personne du Christ. Il t'a baptisé dans le Christ. Tu as été plongé dans la personne de Jésus. Et à partir de ce moment-là, a commencé une œuvre extraordinaire de recréation. Tu as commencé à avoir les pensées de Jésus, les sentiments de Jésus. Tu as commencé à changer de langage. Tu as commencé à changer de désir. Tu as commencé à changer de compagnie. Tu as changé d'endroit où tu pouvais te rendre parfois. Tes plaisirs ont changé, tes affections ont changé. C'était le miracle de la nouvelle naissance. C'est là que nous habitons. Quand l'apôtre Paul a écrit sa lettre aux Philippiens, je fais attention parce que si je parle là-dessus, j'en ai pour jusqu'à ce soir. Alors il faut que je fasse preuve de tempérance. Mais simplement vous dire ça. Quand l'apôtre Paul écrit sa lettre aux Philippiens, Paul, à tous les saints qui sont en Jésus-Christ, à Philippe, Philippe c'est la ville, qui sont en Jésus-Christ, à Philippe, à tous les saints qui sont en Jésus-Christ à Montpellier, à tous les saints qui sont en Jésus-Christ à New York. Mais dans le texte grec, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Je vais essayer de vous le dire simplement. Parce que dans le grec, c'est le même mot. Écoutez bien. À tous les saints qui sont en Jésus-Christ, en Philippe. Ça veut dire que matériellement, sur le plan physique, terrestre, il faut bien habiter quelque part. Donc ils sont en Philippe, dans la ville de Philippe, dans la ville de Montpellier, dans la ville de Narbonne. Mais il y a une autre résidence, il y a une autre habitation, qui cette fois n'est pas terrestre, charnelle, humaine, mais spirituelle. Ils sont en Jésus-Christ. Nous habitons d'abord dans le Christ. Notre réflexe, quand on nous demande où on habite, ben, on cite notre adresse et c'est normal. Mais je vais vous dire que pour nous chrétiens, il faut que ce soit clair dans notre tête, là où tu habites, ta maison, ta rue, c'est ta résidence secondaire. Ta résidence principale, c'est Christ. C'est là que tu habites. C'est là que tu habites. À tous les saints, en Jésus-Christ, en Philippe. Mais ils sont d'abord en Jésus avant d'être en Montpellier. Ils sont d'abord en Jésus avant d'être en Narbonne, etc., etc. Si je n'ai pas cité votre ville, pardon, mais je vous aime et je pense à vous. Et si ma maison, celle où je vais retourner après le séminaire, c'est ma résidence secondaire, je vais vivre les choses autrement. Si j'habite dans le Christ, je vais voir mes problèmes autrement. Si j'habite dans le Christ, je vais voir les difficultés qui surviennent autrement. Je vais voir mes épreuves autrement. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que finalement, ils ont été plongés dans l'eau, mais jamais dans le Christ. Ils n'ont pas de résidence principale. Ils ont adhéré à une ambiance. Ils ont été touchés par le trémolo du flamenco. Ils ont été touchés par un prédicateur évangéliste un petit peu excité ce jour-là. Ça les a remués. Et ils ont fini par lever la main. Heureux qu'ils n'ont pas levé le pied après. Et ils ont fini dans le baptistère. Mais quand vous parlez avec ces gens-là, quand vous creusez un peu, vous rendez compte qu'ils n'ont pas de résidence principale. Ils n'habitent pas dans le Christ. Quand j'habite dans le Christ, ça se voit. C'est évident comme le nez au milieu de la figure. Les autres peuvent s'en rendre compte. Il y a quelque chose qui transpire, il y a quelque chose qui émane de ta vie si tu habites dans le Christ. Et c'est ça que Dieu veut déjà nous dire ici. La nouvelle Jérusalem, c'est une habitation, c'est une ville dans laquelle nous sommes, dans laquelle il est. Et là, ne me demandez pas de vous l'expliquer parce que c'est un petit peu compliqué. J'habite en lui. Et lui en moi. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une habitation. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés, je vais revenir là-dessus quand on va parler des fondements de la Nouvelle Jérusalem. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint pour le Seigneur. En lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On parle bien de résidence. La ville, elle me parle de sécurité et de protection. Écoutez-le, notre grand souverain sacrificateur avant l'heure, parce qu'il n'y a pas eu encore la croix, mais il parle par anticipation, il prie dans Jean 17, comme étant déjà plus sur la terre, comme étant dans le lieu très saint et plaidant pour chacun de nous. C'est une prière avant l'heure. Il est déjà le souverain sacrificateur dans Jean 17. Lorsque j'étais dans le monde, je les gardais en ton nom. Je les ai gardés. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Si vraiment, mes frères, mes sœurs, bien-aimés, vous êtes la nouvelle Jérusalem, si vous l'êtes, vous n'avez rien à craindre. La ville, elle me parle de protection. Elle me parle de sécurité. Nous sommes dans sa main. Et personne ne nous ravira de là. La ville me parle de communion. Les gens communient entre eux dans une ville. Nous avons écrit ces choses, disait l'apôtre, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, j'aime beaucoup ce court verset de Paul, mais qui montre le désir de Dieu dans son appel pour chacun de nous. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. Combien de cœurs ont reçu cet appel du Seigneur ? Dans combien de cœurs ce verset résonne-t-il vraiment ? Dieu m'a appelé à la communion de son Fils. C'est là l'une des grandes raisons pour lesquelles Dieu m'a sauvé. Il veut que je sois uni à Jésus-Christ. Et une ville, et notamment la Nouvelle Jérusalem, me parle de beauté. Jésus disait à ses disciples, « Déjà vous êtes purs. » à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous avez remarqué que la Nouvelle Jérusalem apparaît dans le chapitre 21 de l'Apocalypse symboliquement comme une épouse sainte. Elle est l'épouse de Christ. C'est une personne sainte, une ville sainte, une personne sainte. Je le répète, contrairement à Babylone, qui est une ville corrompue et une personne corrompue. Pour ce qui est de la personne sainte, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 9, il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » C'est, dans le sens spirituel, l'Église parvenue à la perfection finale. L'auteur de l'Épître aux Hébreux leur écrivait, « Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, il en parlait déjà. Des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Ceux qui sont partis, qui nous ont quittés, enfin, ils sont montés de quelques étages, sont parvenus à la perfection. La Jérusalem céleste se construit de plus en plus jusqu'à son achèvement. Vous me direz, pourquoi l'Église reçoit-elle ce nom de Jérusalem? Il n'y a pas que des Juifs sauvés par Jésus-Christ. Tout simplement parce que l'Église sera dans la nouvelle création ce que la Jérusalem juive était dans l'ancienne. Je voudrais encore vous dire, puisque nous parlons des contrastes entre l'œuvre de Satan et l'œuvre de Dieu, que la grande Babylone sera le chef-d'œuvre de l'homme et de Satan, et que la nouvelle Jérusalem sera le chef-d'œuvre de Dieu et de Christ. Elle procédera entièrement de Dieu. Elle ne ressemblera en rien à la Jérusalem terrestre. Dieu refait totalement ce que les hommes ont ruiné. En ce qui concerne Babylone, un petit rappel sur son origine. Vous savez que Noé a eu des descendants. Et je vais vous lire quelques versets dans le livre de la Genèse, au chapitre 10. Cush, un des descendants de Noé, engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Avec cet homme-là, quelque chose s'enclenche, qui ne s'arrêtera jamais. Un système humain, un système terrestre, où est manifestée la puissance humaine. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Et au verset 10, il régna d'abord sur Babel. Donc Nimrod, de la descendance de Noé, a été le fondateur du royaume de Babel ou Babylone. Nimrod est un nom qui signifie rebelle. Et ça veut vous dire, non seulement ce système-là va être marqué par la puissance terrestre, mais il va être marqué aussi par la rébellion. Et dans le chapitre 10 de la Genèse, jusqu'au chapitre 18 de l'Apocalypse, Babylone reparaît sans cesse sur la scène, toujours, comme une ennemie de ceux qui sont appelés à rendre à Dieu un témoignage public sur la terre. Dès que Dieu lève des hommes, dès que Dieu lève un peuple, dès que Dieu lève une armée pour la gloire de son nom, vous avez quelque chose de Babylone qui se lève et qui va à l'encontre de ça. C'est le métier de l'enfer et du diable. Il y a néanmoins une différence entre la Babylone de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament. La Babylone de l'Ancien Testament est une ville. Celle du Nouveau Testament est une ville, je l'ai dit, mais bien plus que cela. Permettez-moi de le répéter, elle est un système planétaire puissant qui est en train de se mettre en place, que le diable est en train de construire pour faire front à tous ceux qui veulent être les témoins authentiques de Jésus-Christ. Il y a quelque chose de très significatif dans tout cela. Le caractère de Babylone depuis son origine, c'est de manifester une influence puissante sur la terre, luttant contre tout ce qui est d'origine céleste. Et il faut que nous soyons, nous le peuple de Dieu, très au clair là-dessus. J'ai eu à cœur de partager tout cela avec vous dans ce séminaire, parce que je suis venu vous dire que l'heure n'est plus à porter nos regards sur nos petits cercles, nos petits bobos. Moi je vous le dis, il faut ouvrir les yeux, il faut voir plus loin, plus haut, plus grand, parce qu'il se met en place contre Israël et contre l'Église des choses terribles. Et maintenant, il faut dépasser nos intérêts personnels pour nous préoccuper des intérêts de Jésus-Christ et de son royaume. Moi, je vous le dis, si votre attachement à Jésus-Christ n'a que comme but le secours de Dieu dans vos difficultés, vous n'allez pas tenir. Préoccupez-vous maintenant des intérêts de Jésus.
Amen.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et Dieu va s'occuper de vous. Parce qu'il est en train de se mettre en place un système qui va broyer tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est enregistré, je fais un bon sens ce que je vais dire. Mais j'ai eu ces dernières semaines des informations mondiales de ce qui se passe ici et là, dans bien des pays du monde. J'ai vu des photos à peine soutenables, où vous voyez un homme, ivre de son idéologie extrémiste, tenir deux têtes, une tête dans chacune de ses mains, de nos frères chrétiens, décapités. Et derrière, sur la palissade, vous voyez avec nous les corps sans tête. Et je m'aperçois qu'il y a là l'accomplissement littéral de l'Apocalypse. Parce qu'on n'envoie pas des balles dans le corps de nos chrétiens, de nos frères. On les décapite. Et l'Apocalypse parle de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus. Nous avons ici une application littérale de la parole de Dieu. Les temps vont très très vite. Il y a une accélération de l'histoire. C'est vrai que Jésus peut revenir à l'avant à la fin de cette réunion, mais quoi qu'il en soit, je peux vous dire que ça va aller très vite et que nos jours, même en Europe et en France, sont comptés. Le problème de l'Église, et c'est pourquoi je vous dis l'heure n'est plus à se trémousser, mais à pleurer. L'heure n'est pas aux réunions excitées. On jette au cœur et aux yeux des chrétiens de la poudre de perlimpinpin. L'heure est au deuil et aux larmes, parce que quand on y réfléchit, notre temps de liberté qu'on a eu pendant des années, on ne l'a pas exploité pour les intérêts du royaume de Dieu. Nous sommes coupables, grandement coupables, d'avoir gaspillé du temps. On s'est occupé de nos petits commerces, de notre petit marché, de notre petit salon en cuir, de nos grands écrans plasma, on s'est occupé de notre voiture, on s'est occupé de nos petits-enfants, on n'a pas vu que dans l'ombre, la grande Babylone arrivait. Et maintenant elle montre les crocs, maintenant elle commence à être en position de force. Et dans certains pays du monde, les chrétiens n'ont plus que les cavernes pour se réfugier, des endroits terribles. Les églises sont saccagées. Tout ce qui appartient au christianisme est mis à mort. Et nos frères sont décapités. Voilà la réalité. Babylone est en marche. Moi, je te dis, tu peux continuer. Ce soir, tu peux même choisir pas être à la réunion, va rester avec ceux qui veulent. Mais moi, je te le dis. Je le crois. Et ça serait bien que nos pasteurs aient cette ligne-là, ce désir-là, de conduire les églises dans le jeûne et la prière,
amen,
dans des temps d'humiliation, et de dire « Seigneur, parle ». Ce que le diable n'a pas réussi par la persécution, il l'a réussi en Europe par la séduction. Ce qu'il n'a pas réussi par les prisons et les liens, il l'a réussi par le confort. Pardon. Nous avons perdu des années. Nous avons vécu dans la médiocrité, dans la tiédeur, dans les compromis. Nous sommes grandement coupables. Et tu nous parles avec l'esprit de la nouvelle Jérusalem. Seigneur, fais-nous grâce. Avez-vous remarqué que lorsque Dieu unit son nom à une ville, Jérusalem, dans l'Ancien Testament, Babylone prend la forme d'une ville. Le diable est le singe de Dieu. Lorsque Dieu unit son nom à l'Église, dans le Nouveau Testament, Babylone prend la forme d'un système religieux corrompu appelé la grande prostituée. Il y a la fiancée de Christ d'un côté, la grande prostituée de Satan de l'autre, la mère des impudiques et des abominations de la terre. On va encore vous lire si vous le supportez, quelques versets au chapitre 17 de l'Apocalypse. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, non pas remplie du parfum qui sont les prières des saints, mais remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je mis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. La Babylone de Satan paraît toujours comme un instrument pour entraver l'œuvre du Seigneur. Quant à la nouvelle Jérusalem, elle est céleste. Et je voudrais vous dire que nous sommes d'en haut. Nous ne sommes pas nés d'un système humain, ni évangélique, ni pentecôtiste. Nous sommes nés d'en haut. Notre vie chrétienne, c'est le résultat d'une œuvre du Seigneur. Et la nouvelle Jérusalem est céleste. C'est son origine, c'est son caractère, c'est sa destination. Alors pour nous réjouir, avant de terminer cette réunion, je voudrais vous dire que la grande Babylone est appelée à passer. Parce que le diable, encore une fois, ne gagne jamais. Vienne l'Antéchrist, il va être détruit. Vienne le faux prophète, il va finir dans les temps de feu. Que le diable construise sa Babylone, elle va partir en ruine. Et je vais vous le lire. Elle est appelée à passer avec sa puissance. Elle est appelée à passer avec sa gloire. Elle est appelée à passer avec son orgueil. Elle est appelée à passer avec ses richesses. Elle est appelée à passer avec son éclat, avec sa séduction, avec son influence. Et voyez-vous, si comme on le disait dans la réunion précédente, nous sommes ces justes qui vivent par la foi, nous n'avons pas de complexe à faire. Nous n'avons pas de crainte à avoir dans le cœur. Le Seigneur nous donnera sa force au moment nécessaire. Nous n'avons pas à craindre ceux qui tuent le corps et qui après ça ne peuvent rien faire de plus. Qu'ils tuent nos corps, nous irons plus vite là-haut. Je sais que c'est facile à dire quand on est confortablement assis dans un hôtel en Espagne. Mais je sais que lorsque ça va venir, il nous donnera la force. Je ne crois pas que des frères chinois qui sont mis à mort pour Jésus cet après-midi soient plus forts que moi. Je ne crois pas que certains chrétiens qui sont mis à mort dans des pays où il y a la loi de la charia sont plus forts que moi. Je crois que dans ce moment-là, Jésus vient. Comme le quatrième homme dans la fournaise, il vient pour assister. Alors si tu sors de la fournaise, gloire à Dieu. Si la fournaise triomphe de nous, gloire à Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Il ne commet pas d'erreur. Dans les héros de la foi du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, il y a ceux qui ont guéri de leur maladie, qui ont recouvré leur mort, etc., etc. Puis d'un seul coup, d'autres n'ont pas été délivrés. Ils ont été sciés. Il paraît que Esaïe a été scié. Vous savez ce que c'est? On mettait le prophète dans un tronc d'arbre et on sciait le tronc. Vous imaginez ça? Les héros de la foi ont été sciés, torturés, vêtus de peau de bête, allant ici et là, dans les cavernes, eux dont le monde n'était pas digne, comme j'aime cette expression. Le monde n'est pas digne de nous. Nous sommes la Jérusalem céleste. Alors oui, nous n'avons pas de complexe à avoir, ni de crainte. Parce que la Babylone va passer, elle va. Chapitre 18, verset 21. Un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipité avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et quelques versets plus loin, alors que sur la terre, Babylone est jetée, c'en est terminé, commence un cantique là-haut. Parce que si des choses se passent dans les sphères spirituelles mauvaises, des choses se passent dans les sphères spirituelles excellentes. Et tandis que Dieu règle ses comptes avec les puissances terrestres, là-haut, les puissances spirituelles, en même temps, réagissent de façon glorieuse. Après cela, alors que Babylone vient de s'écrouler, après cela, j'entendis dans le ciel, comme une voix forte, d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia !» Je n'ai pas dit qu'ils ont applaudi comme dans nos salles maintenant. On applaudit même les prophéties dans certaines églises aujourd'hui. Ils n'ont pas applaudi. Ils ont dit « Alléluia !» Louez l'Éternel. Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main, et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Nos églises savent plus dire ça. Vous savez, je suis né dans la Pentecôte, moi j'ai dit mille fois au milieu de vous, ma première réunion j'avais 8 jours. J'en suis jamais parti, si vous saviez le beau bébé que j'étais. Et j'ai des souvenirs d'enfants. J'ai des souvenirs d'enfants. Vous voyez les chœurs que j'ai chantés en culotte courte. Des souvenirs d'enfants. Quand le prédicateur disait quelque chose qui faisait du bien au cœur, les chrétiens disaient Alléluia. C'était pas une mode. C'était pas des façons de faire pentecôtistes. Il y avait quelque chose qui brûlait dans le cœur. Et quand ça brûlait dans le cœur, jaillissait ici et là dans l'auditoire des Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on dit des choses qui font du bien au cœur. Nous n'allons pas bien. Nous n'allons pas bien. Ils dirent une seconde fois Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen. Amen. Alléluia. La troisième fois, des vrais pentecôtistes. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant,
Alléluia.
Ah, c'est bien quand vous le dites ensemble. T'as fait son rajeunir de 40 ans, 50 même, 55. Oui, cette foule nombreuse dit Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Babylone est entré dans son jugement, et le Seigneur, en même temps, est entré dans son règne. L'un descend, et l'autre éclate de gloire pour l'éternité. Réjouissons-nous, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Babylone est en bas, et pour toujours. Et la nouvelle Jérusalem est prête, pour toujours. Dieu a gagné. Dieu a gagné. Et si tu as la foi, et si tu t'attaches au Seigneur, Dieu va gagner dans ta vie. Dieu va gagner dans ton foyer. Dieu va gagner dans ton église. La nouvelle Jérusalem sera une cité éternelle. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Son nom sera écrit sur leur front c'est quelque chose d'écrit sur Babylone, là, et sur ce qui était de... Mais là, c'est autre chose. Le nom du Seigneur est écrit sur le front de ses serviteurs. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Béni soit Dieu pour la Pentecôte. Et la Pentecôte, ce ne sont pas les assemblées de Dieu qui lumière ou quelques mouvements pentecôtistes ici ou là, quel qu'il soit. La Pentecôte, c'est le courant du Saint-Esprit là, dans les Écritures, et l'action du Saint-Esprit au travers de nous, dans les mouvements existants, je suis d'accord. Mais ne confondons pas le vrai mouvement d'esprit avec ce qui est sur la terre. Je crois que le vrai pentecôtisme, c'est le vin impétueux qui vient d'en haut, qui s'engouffre dans nos vies, qui embrasse l'Église de Jésus-Christ et qui permet à ceux qui ont pris feu de mettre des incendies glorieux partout où ils passent. Un ancien, un homme de réveil à l'échelle mondiale, un homme de Pentecôte, une colonne de la Pentecôte à l'échelle planétaire, disait à ses étudiants, à ses jeunes pasteurs en formation avec lui, « Brûlez, et le monde viendra vous voir brûler. Brûlez, et le monde viendra vous voir brûler. » Si vous allumez une bougie dans votre chambre, ça ne va pas m'amener à quitter mon pyjama, me rhabiller pour aller voir votre bougie. Si l'autel en face prend feu, moi je vous dis une chose, on va tous se mettre au feu. Le feu c'est dangereux, mais c'est bizarre, ça attire. Vous n'avez pas remarqué ça? Quelque chose de fascinant. Le feu c'est dangereux, mais qu'il y ait un incendie, les gens ne s'en vont pas, ils vont voir ce qui se passe. Si l'église prend feu, ils n'auront pas besoin de prospectus, ni de concert, ni de truc, ni de machin, le monde viendra vous voir brûler. Que ton ministère prenne feu, frère. Que ton ministère prenne feu, et le monde viendra te voir brûler. Que ton ministère de chant prenne feu, et le monde viendra, pas pour t'écouter, pour voir Jésus au travers de nos yeux. Que nos églises reprennent feu. Seigneur, fais de nous à nouveau la nouvelle Jérusalem. Réimprime dans nos vies le caractère de la nouvelle Jérusalem. Parce que la nouvelle Jérusalem, c'est nous. Et pour y être, il va falloir que ce qu'on va découvrir dans les prochaines réunions jusqu'à samedi matin, tout ce qui est dit soit déjà en nous. Parce que si ce n'est pas déjà en nous, nous n'en ferons pas partie. La nouvelle Jérusalem, c'est toi, c'est moi. Et il faut que ce qui est dit là soit déjà en nous. Je suis bien d'accord, pas à l'état de perfection parce qu'on est en devenir, mais c'est déjà là, c'est là et ça se développe. Et on a envie que ça se développe. Alors que le Seigneur nous aide dans sa grâce. Je vous remercie de ne pas avoir dormi. C'était bien pour moi. Gardons la parole de Dieu dans notre cœur. On va prier. Je vais laisser les frères terminer la réunion. Dieu. Ô Seigneur, nous sommes conscients qu'il se trame.